Vous écoutez RFI à Paris, il est 8h, 7h en temps universel, midi à Islamabad.
Andréane Mélard.
Gaëtan Plenet, les États-Unis l'affirment, un accord est proche au Liban.
Un accord de cessez-le-feu de 60 jours entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais. Le cabinet de sécurité israélien pourrait l'accepter aujourd'hui. Mais au Liban, on préfère rester prudent. On est à Beyrouth dès le début de ce journal. On sera ensuite à Ramallah, au siège du Croissant Rouge palestinien, où, faute de pouvoir accéder directement au nord de la bande de Gaza, les secouristes tentent d'aider par téléphone les Gazaouis afin qu'ils prodiguent les gestes de premier secours à leurs proches blessés. Dans ce journal également, le sommet des Nations Unies sur le plastique qui continue en Corée du Sud. Et le Rwanda veut un traité ambitieux, fidèle à sa politique environnementale. Et puis le dossier du 8h, consacré ce matin à l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur. On va tenter de comprendre ce que les pays latino-américains ont à y gagner.
Nous sommes proches d'un accord, dit John Kirby.
Mais prudence quand même, nuance le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les États-Unis semblent quand même plutôt optimistes sur l'idée d'un cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Le cabinet de sécurité israélien pourrait accepter dès ce soir le texte proposé justement par les Américains. Il prévoirait, selon le site d'information américain Axios, une trêve de 60 jours et un retrait des deux camps du sud du Liban pour laisser l'armée libanaise se déployer là-bas. Bonjour Paul Ralifé.
Bonjour Gaëtan, bonjour tout le monde.
Correspondant de RFI à Beyrouth. Paul, là-bas, quelles informations au Liban sur la perspective d'un tel accord de cessez-le-feu ?
Gaëtan, il n'y a pas d'annonce officielle et pas d'optimisme excessif non plus. C'est plutôt la prudence et la méfiance vis-à-vis de Benjamin Netanyahou qui sont de mise. Les deux négociateurs libanais, le Premier ministre Najib Miati et le président du Parlement Nabih Bedi, gardent le silence. Leurs proches, eux, commencent à parler. Dans les cercles du chef du gouvernement, on affirme que l'envoyé présidentiel américain Amos Hochstein, qui a négocié l'accord, a prévenu le Liban du feu vert israélien. Hassem Hashem, un député membre du bloc parlementaire de Nabih Bedi, assure que Beyrouth a été officiellement informé que l'annonce d'un cessez-le-feu aura lieu dans les prochaines heures. Une chaîne de télévision proche du chef du législatif indique que l'arrêt des hostilités sera annoncé dans les prochaines 36 heures. Le vice-président de la Chambre, Elias Boussab, a déclaré à la chaîne panarabe El Mayadin, proche du Hezbollah, que le cessez-le-feu entrera en vigueur dans les prochains jours ou les prochaines heures. Ce parlementaire, qui connaît bien Amos Hochstein, a cependant affirmé que le Liban reste prudent, car les expériences passées avec Benjamin Netanyahou ne sont pas encourageantes.
Paul Ralifé en direct de Beyrouth, alors qu'hier les frappes israéliennes se sont poursuivies au Liban. Elles ont fait 31 morts, selon le ministère de la Santé.
La guerre continue aussi à Gaza.
Dans le nord de l'enclave, notamment assiégée par l'armée israélienne depuis plusieurs semaines maintenant. Là-bas, les civils sont livrés à eux-mêmes, obligés de s'improviser secouristes pour tenter de sauver leurs proches, car les ambulances du Croissant Rouge palestinien ne peuvent plus accéder à cette région. Alors c'est à distance, par téléphone, depuis la Cisjordanie occupée, que les secouristes guident les civils pour effectuer les gestes de premier secours. Reportage à Ramallah, au siège du Croissant Rouge palestinien, Sami Boukhalifa.
Un appel de détresse. Au bout du fil, Ala Abou Sakhar, 24 ans. Sa maison à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, vient d'être bombardée par l'armée israélienne. Autour d'elle, 12 membres de sa famille, hommes, femmes et enfants, tous à terre. Certains sont blessés grièvement, d'autres ensevelis sous les décombres. Cela s'est passé le 10 octobre dernier. C'est Nihal Kurdi, infirmière secouriste, qui a pris cet appel.
La jeune fille qui a appelé m'a dit qu'elle était la seule à être consciente. Elle criait et pleurait. La première chose à faire était de la calmer afin qu'elle puisse aider sa famille. Elle m'a dit « Certains sont sans doute morts, d'autres présentent des brûlures et il y a un cas d'hémorragie ». J'ai dit « Ça ne va pas être facile, mais on va faire un tri. Priorité aux blessures graves. Décris-moi l'hémorragie ». Elle a répondu « Ça gicle de partout ». Je lui ai demandé de trouver un bout de tissu propre ou une ceinture et de serrer de toutes ses forces.
Peine perdue, il s'agissait d'une jambe sectionnée à la cuisse au niveau de l'artère fémorale. La personne est décédée en quelques minutes. Mais le drame se poursuit. 24 heures après la frappe, Ala Abou Sakhar et ses proches survivants sont contraints par l'armée israélienne à un déplacement forcé vers la ville de Gaza, où elle se trouve en ce moment.
Le jour du bombardement, j'ai perdu mon mari, ma belle belle-mère et un cousin. 5 jours plus tard, une de mes cousines est décédée des suites de ses blessures. Notre maison a été directement ciblée par une frappe. Je vous jure que nous sommes de simples civils. Nous n'avons aucun lien avec aucun groupe ou faction armée.
Les appels d'urgence de Gaza sont transférés vers Ramallah car presque tous les centres du Croissant Rouge dans le territoire en guerre ont été bombardés. Selon le ministère de la Santé à Gaza, plus de 1000 médecins, infirmiers, aides-soignants et ambulanciers ont été tués par Israël depuis le début de la guerre. Sami Bourifa de retour à Jérusalem. RFI.
Au Pakistan, les autorités annoncent la mort de 4 paramilitaires après des manifestations violentes. Dans la capitale Islamabad, des affrontements ont éclaté entre la police et des partisans d'Imran Khan, l'ex-premier ministre actuellement emprisonné, des partisans qui réclament à sa libération. Aux États-Unis, une juge fédérale a validé l'arrêt des poursuites contre Donald Trump, le président élu, dans 2 dossiers distincts. Le premier pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020. L'autre pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche, mais la justice n'exclut pas une relance de ces affaires après le deuxième mandat de Donald Trump.
Deuxième jour de discussion à Busan, en Corée du Sud.
Deuxième jour, mais déjà cinquième et surtout dernier cycle de négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique. Un sommet des Nations Unies auquel participent quelques 178 pays. Ils ont jusqu'à dimanche pour tenter d'aplanir leurs divergences sur la question. Alors il y a ceux, principalement les gros producteurs de pétrole, qui veulent un traité peu contraignant, qui ne concernerait pas la production de plastique en elle-même. Et puis, il y a les autres qui militent au contraire pour des mesures plus fortes. Parmi eux, le Rwanda qui mène les débats avec la Norvège. Kigali veut un traité ambitieux et ce n'est pas vraiment surprenant quand on sait que la politique environnementale rwandaise est la plus efficace d'Afrique, Célio Fioretti.
Il n'y a plus de plastique dans les rues de Kigali, nous assure Juliette Kabera, négociatrice en chef du Rwanda pour cette conférence internationale. Elle nous explique comment le pays est parvenu à ce résultat.
Depuis 2004, le Rwanda a décidé de contrôler l'usage du plastique. Nous avons donc interdit les sacs en plastique. Il y avait également beaucoup de pollution qui venait des plastiques à usage unique. Alors en 2019, nous avons amendé une loi pour interdire également les plastiques à usage unique.
Le Rwanda a mis en place un système appelé Umuganda qui permet à chacun de participer à la lutte contre le plastique.
Tous les derniers samedis du mois, nous avons ce que l'on appelle l'Umuganda, ce qui veut dire notre communauté. Toutes les personnes de plus de 16 ans doivent nettoyer les espaces communs de diverses manières, par exemple en ramassant les déchets plastiques.
De cette expérience, le Rwanda veut être un modèle pour ses voisins et les autres pays du monde.
De notre expérience, cela montre que c'est possible et que cela n'affecte pas nécessairement l'économie. Nous ne pensons pas avoir toutes les réponses, mais nous savons que le changement est possible.
Célio Fioretti, Busan, RFI.
Des tracteurs attendus devant le Parlement européen de Strasbourg.
Oui, ils sont en route depuis hier soir à l'appel de la Coordination Rurale, le deuxième syndicat agricole français, l'un de ceux qui, depuis la semaine dernière, mène des actions dans le pays. Parmi les sujets de colère, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur, un accord qui vise à supprimer la quasi-totalité des taxes sur les produits échangés entre les deux blocs commerciaux. Il a été trouvé, cet accord, il y a 5 ans déjà, mais n'a toujours pas été signé. Plusieurs pays s'y opposent. La France, notamment, qui ne veut pas de ce traité en l'état, mettant en avant notamment des normes de production différentes qui conduiraient à une concurrence déloyale pour ses agriculteurs. Le sujet doit être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale et a priori les députés vont se prononcer assez largement contre cet accord avec le Mercosur. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Pour le dossier du jour sur RFI, je résumais, Justine, la position de la France. Et de l'autre côté, qu'en est-il ? Quel intérêt les pays du Mercosur auraient-ils de signer un tel texte ?
Eh bien d'abord, comme pour l'Union européenne, l'intérêt c'est de diversifier leurs exportations. Objectif, moins dépendre de la Chine et des États-Unis, alors que Donald Trump a écrit hier qu'il imposera dès le début de son mandat une surtaxe de 10% sur tous les produits chinois importés dans son pays et que le monde craint aussi un retour en force de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Les membres du Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie, espèrent donc avec cet accord s'ouvrir les portes d'un marché de 450 millions de consommateurs européens. Charlotte Emlinger est économiste au CEPI, principal centre français de recherche sur l'économie internationale. Elle y voit aussi d'autres avantages pour les 5 pays sud-américains.
C'est aussi d'avoir accès à des produits européens à des prix plus faibles. Voitures, chimie, pharmaceutiques, automobiles, mais aussi le vin ou les fromages, et aussi des produits intermédiaires, des composants automobiles par exemple, moins chers.
Selon une étude de la London School of Economics commandée par la Commission européenne, l'accord ferait grimper d'au moins 0,3% le PIB des pays du Mercosur.
Et quels sont les produits pour lesquels les pays du Mercosur sont compétitifs à l'export ?
Eh bien, plutôt les matières premières, surtout des produits agricoles. On parle beaucoup du bœuf et du poulet argentin et brésilien, mais seulement une partie de cette viande bénéficiera de droits de douane plus faibles ou nuls. Les quotas équivaudront à 1,6% de la production de bœuf européen, par exemple. Et ce n'est pas le seul obstacle, nuance Charlotte Emlinger.
C'est du bœuf qui devrait être sans hormones. Ça veut dire mettre en place des systèmes de traçabilité. Donc c'est plutôt du bœuf de haute qualité, donc assez coûteux à produire, pour finalement des volumes pas très élevés. Donc c'est sûr que c'est le secteur qui serait gagnant, mais pas de manière très importante.
Et Justine, qui seraient les perdants de cet accord au sein du Mercosur ?
Les entreprises locales, qui seraient concurrencées par les Européens dans l'automobile, la chimie ou encore le vin. Les opposants estiment aussi que le texte favoriserait l'agro-industrie au détriment des petits paysans et de l'environnement.
Et les discussions pourraient aboutir lors du sommet du Mercosur la semaine prochaine. Le traité devra ensuite être ratifié dans l'Union européenne. Merci Justine Fontaine du service économie de RFI.
En France, l'ombre de la censure plane toujours sur le gouvernement.
Et ce, malgré le début de consultations entamées hier par le Premier ministre Michel Barnier. Il a reçu notamment la chef de file des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen. Et elle prévient, si le budget 2025, sur lequel le Sénat commence d'ailleurs à se pencher aujourd'hui, s'il reste en l'état, alors oui, les élus RN voteront pour faire tomber le gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce que semblent vouloir, dans leur grande majorité, les électeurs du parti. Victorien Guillaume est allé à leur rencontre à Villers-Cotterêts, près de Paris, une ville dirigée depuis 10 ans par l'extrême droite. Reportage.
Malgré la pluie, Michael est en plein travaux devant sa maison. Que le RN appuie sur le bouton censure, il est temps, confie le sympathisant.
Il faudrait peut-être faire un petit peu plus de sujets sur l'immigration et tout, on parle pas assez. Vous savez, les 3/4 de ma famille sont agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Le gouvernement qu'on a là en ce moment, il est pas top, sinon ils seraient pas dans la rue.
Même impatience pour Audrey, qui vote pour le parti à la flamme depuis ses 18 ans et qui met dans le même panier Emmanuel Macron et Michel Barnier.
Faut mettre ce gouvernement dehors, quoi. C'est toute la clique à Macron, et Macron, il y en a que pour les riches, quoi.
Et la crainte d'une crise financière exprimée par certains n'est pas de nature à lui faire changer d'avis.
On n'ira pas plus bas que où on est là. Donc non, ça me fait pas peur du tout.
Quant au fait que le RN a pour le moment évité de censurer le gouvernement malgré son statut de parti d'opposition, cela ne semble pas poser problème.
Peut-être qu'elle veut bien prendre les choses en main avant de passer à l'action, je sais pas.
Moi je vais toujours voter RN donc, et je voterai toujours RN.
Alors Marine Le Pen donnera-t-elle raison à sa base au risque d'être accusée de semer le désordre ? On devrait avoir la réponse autour de la mi-décembre lorsqu'un 49-3 sera dégainé.
Le 49-3, on le rappelle, c'est cet article de la Constitution qui permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire passer une loi sans vote des députés. En France, toujours, la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'annonce ce matin dans les pages du journal Le Monde. Elle ne briguera pas un troisième mandat lors des élections municipales de 2026. On en parle dans le journal de 9h, heure de Paris.
On termine avec du foot et le début ce mardi de la 5e journée de la Ligue des Champions.
Et au programme, notamment Bayern Munich, Paris Saint-Germain, les Parisiens qui ne sont pas brillants pour l'instant dans la compétition. Ils sont même virtuellement éliminé. Alors ce match sera important ce soir et pas facile face à des Bavarois qui partent favoris, Cédric d'Oliveira.
À cette période de l'année, Munich est plutôt animé par son marché de Noël, mais avant d'affronter les Parisiens, Kevin et Niklas n'ont que le match en tête et leurs pronostics sont partagés.
Oui, je pense qu'on va battre le PSG 3-1 ou 2-0. Je pense que ce sera très facile. J'espère qu'on va gagner, mais c'est un adversaire difficile. Je pense qu'on va encore assister à une belle rencontre.
Ils seront bien dans les travées de l'Allianz Arena, maillot de l'icône locale Thomas Müller sur les épaules, tout comme Jens qui n'aime pas beaucoup le PSG et son actionnaire qui vient du Qatar.
À cause de tout l'argent qu'ils ont, je pense qu'ils ont un tout autre budget que le nôtre, mais ce sera du 50-50.
Mauvaise foi de supporters, même si leurs modèles économiques sont opposés, Paris et le Bayern ont à peu près le même budget, autour de 850 millions d'euros. Et le PSG n'a plus Mbappé, Neymar ni Messi. Les stars sont plutôt à Munich, à l'image d'Harry Kane qui reste lui prudent.
Évidemment que ça sera très dur. Paris a une très belle équipe avec des stars et qui aime dominer son adversaire avec le ballon. Nous, on est pareil. On va essayer de rendre ça le plus difficile possible, de les étouffer. On le fait plutôt bien depuis le début de la saison.
L'attaquant anglais qui marque à chaque match ou presque sera évidemment le principal danger pour le PSG qui serait bien inspiré de ne pas perdre. Une troisième défaite en Ligue des Champions lui compliquerait la tâche dans la course à la qualification. Cédric de Oliveira, Munich, RFI.
Et Bayern Munich, PSG, le coup d'envoi, ce sera ce soir à 20h, temps universel.
Et on y revient dans le journal des sports dans une petite demi-heure. Merci Gaëtan Plenet, RFI. Tout de suite, la revue de presse. À la une, Frédéric Couteau, le procès de l'horreur.
Depuis l'ouverture du procès des violeurs de Mazan le 2 septembre dernier, les médias internationaux se bousculent au tribunal d'Avignon. Des dizaines et des dizaines de journalistes étrangers racontent l'horreur qu'a subie Gisèle Pellicot, droguée puis violée pendant des années par son mari et par des dizaines d'hommes. Dans le monde entier, les lecteurs se passionnent pour cette affaire qui est rapidement passée du fait divers sordide au fait de société symbole des violences sexuelles contre les femmes. Hasard du calendrier, pointe le quotidien Libération à Paris. C'est à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes que le ministère public a amorcé hier ses réquisitions visant les 51 accusés. 20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine maximale encourue pour des faits de viol en France et c'est celle qui a été requise à l'encontre de Dominique Pellicot.
Un réquisitoire annoncé et commenté partout dans le monde donc.
Les procureurs du procès pour viol massif en France demandent la peine maximale pour l'ex-mari de Gisèle Pellicot, lance le Washington Post. Le courage de Mme Pellicot au cours de cette procédure éprouvante a contribué à faire d'elle une icône, pointe le quotidien américain, même au-delà de la France, pour les militants qui luttent contre les violences sexuelles. Gisèle Pellicot, rappelle le journal, avait en effet renoncé au début du procès à son droit à l'anonymat et avait fait pression pour que les images des viols filmés par son mari soient présentées dans la salle d'audience, montrant qu'elle était inconsciente et inerte. Le procureur a salué son courage et sa volonté de faire changer la honte de camp afin qu'elle retombe sur les violeurs et non sur leurs victimes. En effet, commente de son côté le New York Times, depuis qu'elle a pris la décision rare d'ouvrir le procès au public, Mme Pellicot est devenue une héroïne féministe. Alors que ses enfants et petits-enfants avaient honte de leur nom au début des débats, Mme Pellicot a affirmé qu'elle pensait qu'ils en étaient désormais fiers. Aujourd'hui, je suis connue dans le monde entier, que cela me plaise ou non, a-t-elle déclaré, les gens se souviendront de Mme Pellicot, beaucoup moins de M. Pellicot.
Le Guardian à Londres rapporte les propos du procureur général.
Cette affaire, dit-il, a bouleversé notre société dans notre rapport à l'autre. Il s'agit d'un changement fondamental du rapport entre hommes et femmes. Et le Guardian de préciser que cette 11e semaine du procès se poursuivra dans les 3 prochains jours avec les réquisitions du ministère public concernant les peines à prononcer pour chacun des accusés. Sur les murs de la Cité des Papes, les tags ont déjà tranché, rapporte de son côté Le Soir à Bruxelles. 20 ans pour chacun, lit-on en lettres noires. 20 ans chacun fois 51 violeurs égale 1020 années, crient des manifestantes devant le palais de justice. Ces féministes exigent le maximum contre ces hommes qui sont venus pendant 10 ans violer une femme sédatée par son mari, s'exclame le quotidien belge. 4 d'entre eux y sont allés 6 fois, 6 s'y sont rendus à 2 reprises sans jamais se soucier du consentement de la victime.
Enfin, à lire dans le quotidien Le Temps à Genève, le point de vue de ce père de famille ordinaire, citoyen et responsable politique local.
Il s'appelle Julien Vicky. Face à ces horreurs, est-il acceptable, s'interroge-t-il, que le premier réflexe des hommes soit de se disculper en clamant « Nous ne sommes pas tous comme ça ». La gravité des actes ne devrait-elle pas nous pousser à nous préoccuper des femmes qui les subissent ou pourraient les subir, plutôt qu'à nous préoccuper de nous-mêmes ? Ne devrions-nous pas explorer notre part de responsabilité au quotidien ? Ai-je mis le consentement au cœur de ma relation avec ma partenaire sexuelle, régulière ou non ? La violence sexiste est un poison qui suinte de toutes les couches de la société, affirme encore Julien Vicky. Pour l'en extirper, arrêtons de nous regarder le nombril et regardons-nous plutôt dans un miroir. Nous n'allons pas toujours aimer ce que nous y verrons, mais c'est pourtant nécessaire. Il est temps de balancer le hashtag « Not all men, tous les hommes ne sont pas comme ça » aux poubelles de l'histoire, d'arrêter de se justifier et de travailler à devenir une part de la solution. Nous avons toutes et tous à y gagner.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. À réécouter sur notre application RFI Pure Radio. Elle a quitté le pouvoir en 2021 et nul doute que dans son autobiographie qui paraît aujourd'hui, Angela Merkel revient sur ses 16 années à la tête de l'Allemagne. Son bilan, lui, a quelque peu évolué face aux récentes transformations de son pays, liées notamment aux conséquences de la guerre en Ukraine. En 2024, les Allemands portent un regard beaucoup plus critique sur leur ancienne chancelière. À Berlin, c'est un reportage de Delphine Nerbollier.
Évoquez son nom et vous aurez toute une série de commentaires, comme celui d'Eva, 65 ans, rencontrée sur le quai d'une gare.
Je trouve qu'elle a été trop longtemps au pouvoir. Elle ne pouvait plus s'adapter.
Chez les plus jeunes aussi, le nom d'Angela Merkel laisse peu indifférent. Ils n'ont quasiment connu qu'elle à la tête du pays, elle qui y a passé 16 années. Cela a laissé des traces chez cette jeune berlinoise.
Ich finde sie sehr sympathisch.
Je la trouve très sympathique. Elle a été synonyme de stabilité et cela me manque un peu actuellement. Mais après coup, quand on pense qu'elle est restée 16 années au pouvoir, très peu de choses ont été faites. Et je trouve ça vraiment dommage.
3 ans après son départ de la politique, le regard porté sur l'ex-chancelière s'est modifié. Et pas forcément dans le bon sens. En 2021, lorsqu'elle a raccroché les gants, Angela Merkel laissait un pays stable, en bonne forme économique et qui était saluée pour avoir accueilli des centaines de milliers de réfugiés en 2015 et 2016. 3 ans plus tard, la guerre en Ukraine a révélé la trop grande dépendance du pays envers le gaz russe et modifié de fond en comble le modèle énergétique et économique du pays. L'Allemagne est en récession, l'immigration illégale devient un poids pour de nombreux citoyens et l'extrême droite progresse. Nous joignons Stéphane Cornelius à Munich.
Alors.
Il est éditorialiste au journal Süddeutsche Zeitung et auteur d'une biographie de l'ex-chancelière.
Angela Merkel a tout fait pour que l'Allemagne reste en dehors des crises du monde. Sur le principe, maman s'en occupe, tout va bien. Son plus grand échec est peut-être justement de ne pas avoir préparé l'avenir, d'avoir négligé la politique sécuritaire et de défense.
Dans ce contexte, le parti d'Angela Merkel, la CDU, tente depuis des mois de se distancer de son ancien mentor. Le nouveau patron de la CDU, Friedrich Merz, un ancien rival de la chancelière, a de bonnes chances de gagner les élections en février. La page Merkel serait alors définitivement tournée, selon Stéphane Cornelius.
On a deux styles complètement différents. Friedrich Merz est un homme politique classique pour la CDU, originaire de l'Ouest catholique de l'Allemagne, et il est nettement plus conservateur qu'Angela Merkel.
L'un des principaux reproches adressés à Angela Merkel est de ne pas avoir suffisamment investi dans les infrastructures du pays lorsque les caisses de l'État étaient pleines. L'Allemagne accuse aujourd'hui notamment du retard en matière de numérisation et d'électromobilité. Delphine Arbollier, Berlin, RFI.
Un reportage à écouter en intégralité sur notre site à la rubrique Action d'Europe. On en parlait dans le journal. Donald Trump a confirmé hier sa volonté d'augmenter les droits de douane sur les produits chinois. Le président élu américain a aussi annoncé son intention de faire passer à 25% les taxes douanières sur les produits mexicains et canadiens. Le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui partagent pourtant un marché commun, un traité signé en 2019 qui doit faire l'objet d'une révision en 2026. Ce marché qui est déjà un sujet brûlant dans le contexte de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, le Mexique étant accusé de faire passer des marchandises chinoises par, entre guillemets, la porte de derrière. À Mexico, on est avec notre correspondante Gwendolina Duval. Alors, l'avenir du traité est suspendu, Gwendolina, aux décisions du Mexique à ce propos. Que pense Mexico ?
Le Mexique n'a aucune intention de sortir du traité de libre-échange et veut que ce dernier continue d'exister. C'est la position affirmée par la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. Elle a même envoyé un signal pour tenter de rassurer ses voisins. Son gouvernement va prochainement présenter un plan pour renforcer son économie nationale et diminuer les importations en provenance de Chine et plus généralement d'Asie. Ici, au Mexique, les déclarations du Premier ministre canadien ont résonné comme une douche froide. Elles accentuent les incertitudes provoquées par les positions agressives de Donald Trump vis-à-vis du Mexique. Les deux voisins du Nord reprochent au pays de servir une triangulation commerciale, c'est-à-dire d'exporter des produits chinois, soi-disant réétiquetés Made in Mexico, aux États-Unis et au Canada, en évitant donc les taxes.
Mais est-ce que c'est vrai ?
Le Mexique s'en défend, évidemment. Selon Claudia Sheinbaum, cette idée est fausse. De fait, il est compliqué de parler véritablement d'une triangulation, puisque tant les États-Unis que le Canada importent même beaucoup de produits chinois. Mais la préoccupation vient plutôt de l'augmentation des investissements chinois au Mexique. Et ça, c'est vrai. Ils ont explosé en 2022. Le Mexique, qui veut profiter de ce qu'on appelle le nearshoring, la relocalisation des activités depuis l'Asie vers l'Amérique du Nord, attire de plus en plus les entreprises chinoises. Ces dernières s'installent au Mexique, notamment dans le secteur automobile.
Alors, Gwendolina, il y a une échéance en 2026, le traité doit être révisé. Normalement, il s'agit juste d'une révision, mais il semble de plus en plus qu'on se dirige vers une renégociation.
Oui, les sonnettes d'alarme ont commencé à retentir au moment de l'élection Donald Trump. Le prochain occupant de la Maison-Blanche affiche des positions très protectionnistes et il a déjà ouvert la porte à l'idée d'instaurer des taxes sur les envois mexicains pour mettre la pression sur les sujets migratoires ou sur la lutte contre le trafic de drogue. Une chose est sûre, pour le Mexique, c'est impensable de renoncer à cet accord de libre-échange. Il ne fait pas partie du Mercosur, il n'est pas question qu'il y rentre. Son économie est ultra dépendante de ses voisins du Nord, des États-Unis surtout. Ce n'est pas le cas du Canada qui envoie finalement assez peu de marchandises au Mexique. On sent que la situation a changé. Le gouvernement canadien, lors du dernier mandat de Donald Trump, avait plutôt joué le rôle d'allié. Ce n'est plus le cas. Le Canada s'apprête à avoir des élections compliquées l'année prochaine et donc les trois pays, les trois amis comme on les appelle, vont devoir trouver un nouvel équilibre.
Gwendolina Duval, correspondante de RFI à Mexico. En Corée du Sud, ce sont un peu les négociations de la dernière chance qui se tiennent depuis hier à Busan, en Corée du Sud, pour un traité mondial contre la pollution plastique, car cette pollution est partout, et c'est bien le problème, dans les eaux du monde, mais aussi dans nos corps. Et on va s'interroger ce matin sur les effets du plastique sur la santé. Igor Strauss, les premiers effets sont liés à la fabrication même du plastique.
Oui, le plastique est un polymère, c'est-à-dire une chaîne de molécules à laquelle on ajoute des substances chimiques ou des additifs pour lui donner des propriétés fonctionnelles. On peut ainsi rendre le plastique plus souple, plus résistant ou ininflammable, mais l'ajout de ces substances chimiques a des conséquences sur la santé. Muriel Mercier-Bonin, directrice de recherche INRAE au laboratoire Toxalim de Toulouse.
Il y a 16 000 composés qui sont présents dans les plastiques en termes de substances chimiques, mais de manière plus générale, on ne connaît la dangerosité de ces additifs que pour 25% d'entre eux, comme le bisphénol A, ou les phtalates. Donc là, leurs effets négatifs pour la santé, ils ont été démontrés. Mais en fait, ces additifs, ça ne représente pas en fait l'ensemble des substances chimiques qui peuvent être incorporées et présentes dans les plastiques.
Alors, le bisphénol A et les phtalates sont des perturbateurs endocriniens que l'on retrouve notamment dans les plastiques alimentaires et qui peuvent provoquer des troubles de la reproduction, l'infertilité, des troubles du métabolisme comme l'obésité ou le diabète, ou encore eh bien un dysfonctionnement de la thyroïde. Le problème, c'est que l'étude des effets du plastique sur la santé eh bien est très récente, elle date de 2015 et qu'on ne connaît que certains de ces produits chimiques.
Alors, il faudra donc attendre d'autres études pour avoir un tableau plus précis, mais d'autres effets du plastique sont liés à sa décomposition.
Exactement, on parle alors de micro ou de nanoplastique, de minuscules particules que l'on retrouve partout, dans l'eau, dans l'air, dans les aliments. Des scientifiques en ont retrouvé dans le placenta, dans le sang ou dans le lait maternel. Mais en se décomposant, eh bien, ces microplastiques vont entrer en contact avec d'autres polluants et provoquer ce qu'on appelle l'effet cocktail, une accumulation de produits toxiques qui décuplent leur nocivité. Muriel Mercier, Bonin.
Le plastique, quand il va voyager et se fragmenter dans l'environnement, il va pouvoir se charger en différents types de polluants, des polluants environnementaux, qui, une fois qu'ils vont être inhalés ou ingérés, ils peuvent aussi avoir leur dangerosité propre liée à des phénomènes en fait de libération de ces polluants dans l'organisme. Il peut y avoir des conséquences délétères aussi pour la santé des animaux, pour des plantes et in fine de l'humain en tant que membre de cette grande famille des organismes vivants.
C'est la fameuse approche One Health, une seule santé humaine, animale et environnementale, puisque eh bien, l'ensemble du vivant est interconnecté. Ce cinquième et dernier tour de négociation à Busan n'est donc pas uniquement une question de pollution plastique, mais également de santé publique.
Ouais. Igor Strauss du service climat-environnement de RFI, merci beaucoup. Le plastique, c'est au cœur de notre émission Appel sur l'actualité aujourd'hui. Nathalie Amar attend vos questions et vos réactions. Le plastique, peut-on réduire la production et la consommation? Rendez-vous tout à l'heure à 9h10, heure de Paris, pour cette émission d'Appel sur l'actualité. Ce sera juste après le journal de 9h. Dans une minute, l'information africaine sur RFI.
Radio Foot International, du foot, mais pas que.
Il y a ce qui se passe en Angleterre, le climat politique et des tabloïds qui sont très à droite.
Pas que en Angleterre, malheureusement.
Et il y a l'autre part qui est pour moi un vrai débat. Est-ce qu'un entraîneur d'une sélection nationale peut être un étranger par rapport à cette sélection?
Radio Foot International, du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU sur RFI.
Vous êtes tous très optimistes sur une victoire?
Non. Oui, non.
Ah oui.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens.
Frédéric Lebel.
L'ex-chancelière allemande Angela Merkel publie ses mémoires, l'occasion de tirer un bilan de ses 16 années au pouvoir. L'icône est critiquée pour son aveuglement face à la Russie et le manque d'investissement dans les infrastructures du pays.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.